Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet le plus quotidien qui soit, probablement le plus commun à vous toutes et vous tous, les déplacements dans Montpellier et dans la métropole. Il sera question de trams, de pistes cyclables, de circulation. En effet, mon invité Julie Fraîche, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au transport et aux mobilités actives. Merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Vous avez fait vos études au lycée Joffre, puis à l'université de Montpellier jusqu'au doctorat en droit public. Vous êtes fonctionnaire territorial, vous avez travaillé dans l'administration du département des Pyrénées-Orientales et depuis 2012, vous travaillez toujours à Montpellier, cette fois dans les services de la région Occitanie, comme chargé de mission sur les politiques territoriales, le développement territorial en Occitanie. Dites-nous en quoi ça consiste d'ailleurs, votre activité professionnelle, plus précisément, que les auditeurs comprennent. Politique territoriale, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est en fait la contractualisation avec tous les territoires de projet, c'est-à-dire toutes les intercommunalités. Il y en a 145 dans les 13 départements d'Occitanie et il s'agit de pouvoir fixer par territoire les grandes priorités et de voir quels sont les cofinancements possibles entre tous les partenaires financiers en fonction des stratégies qui sont celles de la région Occitanie, le pacte vert, la transition énergétique, la question du plan logement durable, des déplacements décarbonés aussi à l'échelle régionale.
Très bien. Alors, comme vous le savez, un petit rappel sur votre parcours. Vous êtes membre du Parti socialiste. Vous avez été conseillère d'opposition de 2014 à 2020 pendant le mandat de Philippe Sorel. Et depuis dans les élections de 2020, vous êtes à la mairie conseillère municipale, n'oublions pas. Et surtout, c'est un gros travail. Votre délégation au transport et mobilité, et vous présidez également, je reviens à la mairie, le groupe socialiste, écologique et républicain. Mais d'abord, vous le savez, dans cette émission, le fil conducteur, l'introduction dans l'échange qui s'ouvre, c'est de nous raconter votre Montpellier. Alors, je vous demande un petit effort de ne pas parler en tant qu'élu, de prendre ce petit recul, mais en tant qu'habitante, en tant que piétonne, en tant que promeneuse. Et donc d'abord, quels sont les lieux à Montpellier que vous aimez particulièrement, que vous êtes attaché, ceux qui soient connus ou pas d'ailleurs, et qui contribuent à l'agrément d'habiter Montpellier?
On peut en citer beaucoup. Alors maintenant, effectivement, je vais plus dans des lieux avec mes enfants. Je pense au parc Méric dans le quartier de L'Aiguelongue. Je pense au domaine de Gramont, où j'ai beaucoup été lorsque j'étais enfant. Et plus récemment, le parc Montcalm, qui change considérablement les quartiers à l'ouest de Montpellier. On a beaucoup de parcs à Montpellier qui sont assez méconnus et qui participent à la qualité de vie de la ville.
Très bien. Alors, quand vous recevez des amis de passage à Montpellier, donc vous improvisez guide officieux de l'office de tourisme, qu'est-ce que vous leur conseillez?
Alors à Montpellier, c'est vrai qu'il y a quand même des trésors. Franchement, l'Office du tourisme fait un travail remarquable. C'est vrai qu'aller déambuler dans toutes les rues médiévales, dans les hôtels particuliers, d'aller visiter les anciennes folies du 19e siècle et tout, ça fait partie, je crois, des passages obligés. Mais moi, ce que j'aime aussi faire découvrir aux visiteurs, c'est aussi l'extension de Montpellier vers la mer. Et donc, imaginez que après le polygone, il y a 40 ans, il y avait des vignes, et qu'au fur et à mesure, parce que finalement, il y a eu un projet d'urbanisme incroyable qui était de rapprocher Montpellier vers la mer, parce que finalement, à vol d'oiseau, on n'est qu'à 8 km. Ça a été un grand programme de zones d'aménagement concertées où les programmes immobiliers ont permis de financer les équipements publics, les écoles, les parcs, les jardins. Et donc, c'est l'histoire de la ville, ces 40 dernières années de de son centre historique vers la mer. Aujourd'hui, on le voit encore, c'est le quartier Cambacérès, c'est la ZAC République, c'est bientôt la ZAC de la Baume, juste en face du rond-point de l'Arbre Blanc, depuis que Union Matériaux a accepté de se déplacer.
De libérer ce grand terrain, qui est un terrain presque de centre-ville.
Exactement. Ça montre aussi ce qu'est le temps long dans l'aménagement urbain d'une grande métropole.
Ah, il y a l'élu qui est revenu, ce qui n'est pas étonnant. Alors, on va en venir maintenant à l'objet de notre échange. On va parler déplacement, ou plutôt mobilité. Ce mot qui a pris le dessus, là, même si personne ne dit « pour mes mobilités, je prends le tram ». Alors, d'abord peut-être, au bénéfice des auditeurs et auditrices, définition des mobilités, avec un S, je précise.
Les mobilités, c'est la manière dont on se déplace de manière décarbonée. Alors décarbonée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans polluer. Et donc, c'est soit la marche, soit le vélo, soit les transports en commun, soit tout mode de déplacement qui permet finalement en même temps d'améliorer la qualité de l'air et puis aussi de réduire l'emprise de la voiture sur l'espace public. Parce que lorsqu'on est seul dans sa voiture, on prend...
Ouais, ce qu'on appelle l'autosolisme, ce néologisme peu connu. Mais
exactement, ça... exactement. Et dans une ville qui accueille toujours plus d'habitants, être seul dans sa voiture, ça prend autant de place que 20 cyclistes les uns à côté des autres. Donc voilà, donc il y a une question effectivement d'emprise sur l'espace public et de redistribution de cet espace au profit de tous les modes. Et donc les mobilités, c'est la manière de se déplacer sans polluer.
Alors, on va poursuivre dans cette voie, donner quelques points de repère, peut-être les fondamentaux, sans être exagérément didactique. Donc, pour que chacun ait une vision complète, une compréhension d'ensemble des politiques conduites par la métropole, il est utile de rappeler les grands axes, les principes de ces politiques. Et d'abord, pour que ce soit totalement limpide, l'analyse, le diagnostic qui est préétabli, qui a conduit à ces grands choix.
Alors, quelques chiffres. Il faut savoir qu'en l'espace de 60 ans, Montpellier a pris 80 000 habitants. C'est-à-dire que nous étions 27e ville au plan national et nous sommes passés 7e. En très peu de temps. C'est une situation inédite au niveau national. Alors, c'est évidemment un facteur d'attractivité. Beaucoup d'entreprises viennent s'installer à Montpellier. Montpellier est un territoire qui n'a pas connu la désindustrialisation. Et donc, on est effectivement sur les métiers du tertiaire, on est sur des métiers à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est effectivement les effets positifs de la croissance démographique. Et en même temps, 8 000 nouveaux habitants chaque année, dont 4 000 à Montpellier, 6 000 nouvelles immatriculations. Cette situation a été jugulée quand, à chaque mandat, on annonçait une ligne de tramway, à la fin du mandat, on l'a livrée. Mais sauf que ces 10 dernières années, tout s'est arrêté. La ligne 5 a été abandonnée. On a livré une nouvelle gare dans le quartier Cambacérès. On ne l'a pas raccordée au réseau de tramway. Et donc, depuis 10 ans, la croissance démographique ne s'est pas essoufflée. Et en même temps, on n'a pas continué livrer des moyens
donc,
de se déplacer.
Donc, un décalage entre des besoins évidents et... les équipements, les aménagements à mettre en face, c'est ça ?
Oui, et puis vous savez, moi j'ai la chance d'avoir les archives de Montpellier, notre ville.
C'est le journal municipal, je précise.
C'est vrai, et donc du coup, quand j'ai pu regarder toutes ces archives, le titre qui revient le plus, c'est... excusez-moi, c'était pas Montpellier, notre ville, là, sur cette question-là, c'était la Gazette. Si vous reprenez toutes les unes de la Gazette depuis 30 ans, le sujet qui revient le plus, il faudra effectivement demander confirmation à Pierre Serres, ce sont les embouteillages, les bouchons. Parce que cette ville n'a jamais été organisée dans son réseau routier pour accueillir un tel niveau de circulation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner les moyens aux gens de faire un autre choix que la voiture. Au-delà de la question de la pollution de l'air, la voiture prend trop de place sur l'espace public. Vous avez aujourd'hui 60% des déplacements dans la métropole qui font moins de 3 km. Donc ces déplacements peuvent être très bien réalisés soit à pied, soit à vélo, soit en transport en commun. Donc il ne faut pas favoriser un mode sur un offre. Notre stratégie, c'est la stratégie mobilité 2025, c'est d'offrir des alternatives. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Il ne faut pas dire tu prends ta voiture, c'est pas bien, tu pollues. Non, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont aucune alternative à la voiture individuelle. Ils la prennent parce qu'ils n'ont aucun autre choix.
Pour aller au travail, amener les enfants à l'école,
exactement,
etc.
Exactement. Donc vraiment, nous, on n'est pas du tout sur un discours culpabilisateur. Par contre, ce qu'on s'attelle à faire, c'est de mettre à la disposition des gens, en fait, des alternatives. Alors, ça peut être du covoiturage qu'on finance, qui est gratuit, avec l'application Klaxit qui aujourd'hui est devenue Blablacar Daily. On a multiplié par deux le nombre de voitures avec, en autopartage, et on travaille avec cette magnifique entreprise qui est une entreprise montpelliéraine, Module Auto. On fait la gratuité des transports, on fait un réseau express vélo, on fait un réseau de lignes à bus à haut niveau de service. On va enfin livrer la ligne 5 qui aurait dû être livrée en 2017. On va faire l'extension de la ligne 1 pour raccorder la gare Sud de France à la gare Saint-Roch, ça aurait dû être livré en 2018. Et donc, on va donner le choix aux gens, finalement, de faire autre chose que la voiture. Ceux qui voudront continuer à prendre leur voiture, ils pourront continuer à le faire. Mais par contre, les autres, ils auront le choix de faire différemment. Et il n'est pas question de faire différemment tous les jours. Par exemple, sur la semaine, parce que moi, je rencontre toujours des gens qui, tous les jours, s'occupent de leurs enfants matin et soir, ont des énormes courses, vont voir leur belle-mère qui est en maison de retraite à 40 kilomètres de Montpellier. En fait, ça, effectivement, ces contraintes-là, elles existent, mais elles ne sont pas... elles n'existent pas sur chaque trajet. Donc, voilà. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que si tous les habitants de la métropole font une fois par semaine un choix différent de la voiture individuelle, on réduit la congestion automobile de 20% et le pari est gagné. Donc, il ne s'agit pas de faire tous les jours du vélo, tous les jours du tramway, tous les jours du bus tram, tous les jours de l'autopartage, tous les jours du covoiturage. Non, il s'agit de faire quand on le peut, voilà, de faire un choix différent. Et surtout, c'est quand même un gain de pouvoir d'achat. Quand on sait aujourd'hui qu'à Montpellier, vous avez 28% de taux de pauvreté, 19% à l'échelle de la métropole, que vous avez effectivement énormément de personnes qui vivent en dessous du minimum vieillesse quand les personnes ont plus de 65 ans, bah quand vous pouvez voyager gratuitement, que ça soit en covoiturage ou en transport gratuit, et qu'on sait que c'est le deuxième poste de dépenses dans un ménage, bah c'est vrai qu'assurer la gratuité des transports, et faciliter l'accès aux mobilités décarbonées, ben je crois que c'est aussi un choix de politique publique qui se traduit par pas d'écologie sans social, pas de social sans écologie. Il ne faut jamais que les mesures en faveur de la transition énergétique soient vécues de manière contraignante par les plus fragiles. Il faut systématiquement arriver à juguler que chaque mesure soit un marqueur économique synonyme d'augmentation du pouvoir d'achat et un marqueur aussi écologique comme étant synonyme d'amélioration de la qualité de l'air.
Alors, votre argumentaire, c'est une manière de répondre à ceux qui, quels qu'ils soient, de manière spontanée, avec des arrière-pensées politiques, disent assez des contraintes, assez des injections. C'est un élément qui vient dans le débat public local et national. Et votre argumentaire tente à démontrer que c'est des formes de liberté ou de diversité des modes de déplacement que vous mettez en œuvre.
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je pense que c'est effectivement un sujet dépassé que de dire que seule la voiture assure la liberté de déplacement. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, on s'était trompé de lieu de rendez-vous. Et en l'espace de 7 minutes, il est arrivé avec la ligne 1 de tramway. Alors, comme il ne venait pas de Montpellier, il a payé son titre de transport. Mais il m'a dit, regardez, grâce au réseau de transport public... on a résolu ce petit problème de...
Je confirme.
C'est vrai, voilà. Non, mais tout ça pour dire effectivement qu'on change la ville en équipant, aujourd'hui, l'ensemble des quartiers d'un réseau de transport. Il est beaucoup plus simple aujourd'hui de prendre le tramway de manière gratuite plutôt que de prendre la voiture et de galérer pour stationner. Alors, en plus, il faut trouver une place et ensuite, il faut payer le coût du stationnement. Donc, oui, je crois aujourd'hui que la gratuité des transports et la stratégie mobilité 2025, c'est plus synonyme de liberté, de solidarité, d'universalité que prendre sa voiture qui aujourd'hui, je crois, est beaucoup plus synonyme de contrainte. Aujourd'hui, avoir une voiture par an, ça revient en moyenne à 6 000 euros. Je compte le coût d'investissement, d'amortissement, d'entretien, d'essence dans une période où le coût du litre a dépassé les 2 euros. Donc oui, très clairement, peut-être qu'à une époque, sous Pompidou, la voiture a été synonyme de liberté. Aujourd'hui, c'est un autre monde. il faut s'attaquer aux défis du 21e siècle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de démontrer qu'il y a ou non changement climatique. Non, maintenant, on sait qu'il y a le changement climatique. Il faut adapter les villes aux défis du 21e siècle. On le sait, à Montpellier, il va y avoir 50 journées d'intense chaleur d'ici 2050. On va rentrer dans une période...
50 par an ?
Exactement, par an. On sait qu'on va rentrer dans une période de stress hydrique, comme les Pyrénées-Orientales, comme les régions d'Espagne et du sud du pays en Espagne. Donc on doit adapter les villes à ces changements. Et donc les mobilités décarbonées, on le sait, aujourd'hui le trafic routier est la principale cause de la pollution de l'air. La pollution de l'air aujourd'hui, en fait, elle cause une pré-mortalité. Il y a des gens qui meurent prématurément simplement à cause de l'air qu'ils respirent. Voilà. Vous avez 48 000 décès par an au niveau national. Si vous faites prosaïquement...
Une règle de 3.
Exactement, une règle de 3. Vous avez 400 personnes qui, dans la métropole de Montpellier, meurent prématurément, simplement parce qu'elles respirent l'air de la ville. Donc c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de santé environnementale. Vous n'avez plus un article qui sort dans les revues scientifiques qui ne démontre pas le lien de causalité entre la pollution de l'air et l'augmentation du nombre de cancer, d'accidents cardiovasculaires, d'augmentation de l'hyperréactivité bronchique chez les enfants. Donc c'est un mal invisible. Alors effectivement, ce n'est pas les sujets les plus bankable, je suis d'accord.
Oui,
voilà. Mais en même temps, quel responsable politique peut connaître ces chiffres-là sans proposer d'agir de manière volontariste ? Et comment on agit de manière volontariste ? On propose effectivement des politiques publiques comme la gratuité des transports qui incite les habitants à prendre les transports qui polluent moins, qui créent moins d'embouteillages, donc moins de congestion et qui agissent aussi bien pour l'écologie, pour l'environnement et qui augmentent leur pouvoir d'achat.
Bon, le tableau est brossé. J'avais une question, vous avez dit, donner les grands chapitres, hein, les principales réalisations. Alors, une question plus précise toutefois. Bon, à Montpellier, il n'échappe à personne qu'il y a des travaux, beaucoup de travaux. Alors, pour donner des perspectives précises aux auditeurs, dites-nous quelles sont les échéances dans le temps des principaux chantiers qu'on voit un peu quand l'horizon va se dégager. Alors, en prenant point par point les grands dossiers. La rénovation des rails, qui était impérative, hein, bon, qui, oui, semble-t-il aussi, n'avait pas été gérée comme il aurait fallu, en tout cas. Alors, on a vu successivement dans la ville le changement de ces rails et des équipements modernisés associés. Où en est-on de ce chantier ?
Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lors du précédent mandat, chaque année, le budget consacrait 200 000 euros sur la rénovation des rails. Si vous comparez avec des réseaux similaires aux nôtres, comme Nantes et Grenoble, c'était 800 000 et 900 000 euros par an qui étaient consacrés à la rénovation des rails. La rénovation des rails, c'est quand même le principal facteur pour assurer la sécurité des voyageurs lorsqu'ils empruntent le tramway.
Pour éviter les déraillements.
Exactement. Donc on était dans une situation de sous-investissement dangereux et on était arrivé à 20 casses de rails par an. Et au début du mandat, il y a eu à 5h16 le déraillement d'une rame de la ligne 3 à Gambetta, heureusement sans voyageurs. Nous avons décidé, dès notre arrivée aux responsabilités, d'engager 70 millions. Alors c'est effectivement assez invisible, hein, lorsqu'on rénove quelque chose qu'on connaît déjà, mais c'était essentiel de protéger notre patrimoine ferré existant au-delà d'augmenter l'offre de transport public. Nous l'avons fait dans le secteur Corum, dans le secteur Comédie, sur le secteur Moularès, dans la galerie Mistral. Nous avons changé les rails, les systèmes
d'exploitation. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, Madame Fraîche, parce que le temps file. Bon, on a bien compris l'enjeu. Alors, la réalisation de la ligne 5 du tram.
Alors, à la fin de l'année, nous aurons...
Fin d'année, c'est-à-dire dernier trimestre 2025 ?
Non, fin d'année 2024, nous aurons posé 80% des rails de la ligne 5. Dès maintenant, jusqu'à l'été, nous posons les rails sur le secteur Clémenceau. C'est beaucoup plus avancé sur le secteur nord. Nous finissons sur l'avenue de Vanières, vous savez, la traversée entre le quartier Paul-Valéry et le quartier Auvalier. Mali à la fin de l'été. À la fin du premier semestre 2025, nous aurons réalisé les principaux aménagements, parce qu'il ne s'agit pas que d'une ligne de tramway. Nous faisons aussi des aménagements cyclables sur l'ensemble du linéaire. Nous plantons chaque fois que c'est possible sur l'ensemble du linéaire. Et surtout, nous faisons des trottoirs larges sur les 16 km que compte la ligne 5 du tramway. Vous aurez 2 mètres de trottoir de chaque côté de la plateforme de tramway pour assurer le confort des piétons et de la marchabilité dans la ville.
Alors là, l'extension, vous l'avez évoqué, là, qui restait à faire de la ligne 1 du tram jusqu'à la gare Sud de France, quel est le calendrier rapidement aussi?
La ligne 5, nous la livrerons en novembre 2025. Sur l'extension de la ligne 1, nous sommes en train de finir avec Vinci le pont qui passe au-dessus de la 709, qui va permettre de faire passer le tramway. Et nous espérons terminer les travaux et livrer l'extension de la ligne 1 en septembre 2025.
Alors, un autre aspect, parce que j'ai regardé le programme sur lequel vous avez été engagé, il y a un volet de politique de transport qui n'y figurait pas, les bus tram, les 5 lignes de bus tram. Pourquoi cet ajout au dispositif de transport en commun, il a aussi quelques éléments de date pour qu'on s'y retrouve.
Parce que c'est bien de traiter Montpellier, mais c'est encore mieux de traiter les 31 communes de la métropole. Et donc, les lignes de bus à niveau de service, notamment la ligne 1 et la ligne 4, permettent d'offrir un moyen de transport de qualité en site propre, c'est-à-dire vraiment des voies qui sont exclusivement réservées aux bus chaque fois qu'il y a des endroits de congestion, jusqu'à Castries, donc aux limites nord-est de la métropole, et jusqu'à Cournonsec, les limites à l'ouest de la métropole. Donc c'est vraiment une vision métropolitaine des transports, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mailler la centralité de la métropole, mais aussi les 31 communes. La stratégie mobilité, c'est pas que la ville-centre, c'est les 31 communes de la métropole. C'est pareil pour le réseau express vélo, où nous nous attachons avec le réseau de liaison, ces petites pistes cyclables qui rejoignent les vélolines montpelliéraines. Là, on est vraiment sur le réseau express vélo et ça concerne les 31 communes de la métropole pour créer des alternatives pour les 500 000 habitants que compte notre territoire.
Donc la première ligne de bus tram, c'est laquelle?
C'est la bus tram numéro 1 qui part de la place de l'Europe, qui rejoint le rond-point de l'Arbre Blanc, puis ensuite qui emprunte la rue de la Pompignan, la rue de la Vieille Poste, le rond-point de Del, Eureka, le boulevard Philippe Lamour, et qui va rejoindre la connexion avec la ligne 2 de tramway à Notre-Dame-de-Sablassou, à Castelnau. Ensuite va emprunter les anciennes voies de chemin de fer et donc va traverser les communes du Crès, de Vendargues, pour arriver à son terminus, à Castries. La première section jusqu'à Sablassou sera livrée en janvier 2025 et la deuxième section sera livrée au premier trimestre 2026.
Alors, vous avez évoqué le vélo. Bon, un petit temps sur le vélo. Vous l'avez dit, il y a deux ensembles de voies. Qui s'appelle Vélolink Montpellier-Rennes, et après des voies pour vélo de raccordement d'un certain nombre de communes, notamment de quartiers au Vélolink. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Vélolink? Ça aussi, rentrer dans le détail, même si votre connaissance de Montpellier nous fait nous promener à travers la ville. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour que ça soit tout à fait limpide?
Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a plein de trajets. Le vélo à assistance électrique permet finalement d'avoir une autre vision sur le vélo. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager tous les trajets qui font à peu près jusqu'à 10 km. Donc dans la métropole, ça concerne quand même beaucoup de trajets. C'est un temps de trajet garanti. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le portefeuille. Et donc, notre plan vélo, c'est surtout d'arriver à résorber ces petites discontinuités qui, au moment des intersections, sont dangereuses. Nous sommes en train aujourd'hui de réaliser quand même tout l'anneau vélo autour du centre-ville et nous réalisons par portion les vélolines Montpellier-Rennes. Certains voudraient que ça soit plus rapide, mais il faut réaliser les acquisitions foncières, il faut réaliser les études environnementales, les études sur la loi sur l'eau. Mais je crois qu'on va le plus vite possible, compte tenu du respect des procédures réglementaires. À la fin du mandat, nous aurons réalisé 65% des 235 km de vélo-ligne Montpellier-Rennes.
Très bien. Alors, revenons un instant quand même sur la gratuité. Bon, ce grand moment du 20 décembre, 21 décembre dernier, où la gratuité a été généralisée pour tous les habitants de la métropole, hein, quel que soit leur âge. C'est peut-être trop tôt pour faire un bilan technique, financier, détaillé, mais quelles sont les tendances qui résultent de 3 mois de gratuité? Que peut-on en dire aujourd'hui là, par rapport aux ambitions, aux objectifs que vous, aviez en tête?
Je laisserai parler les habitants, enfin, qui sont souvent interrogés d'ailleurs dans la presse. Moi, souvent, je parle avec des gens aux arrêts de tram et tout qui savent pas du tout ce que je fais. Et ce qui ressort, c'est que les gens, ils ont l'air heureux dans le tramway. Parce que des situations très, très différentes. Par exemple, avant, il y avait des gens qui, faute d'argent, étaient hyper stressés en rentrant dans le tramway parce qu'ils regardaient s'il n'y avait pas un contrôleur qui arrivait. Donc, du coup, ça mettait une mauvaise ambiance et tout. Bon, ça, du coup, ça a disparu. Il n'y a plus de validation. C'est gratuit pour 500 000 d'habitants. Et mine de rien, ça change l'ambiance dans le tramway. Nous menons aussi parallèlement une campagne contre les petites incivilités qui pourrissent l'ambiance dans le tramway. Les pieds sur les sièges, le fait de vapoter, de manger, de faire une conf-call avec son téléphone où tout le monde a le loisir d'écouter sa conversation téléphonique. Voilà. En fait, le tramway, c'est un espace public, c'est un transport public, c'est un bien commun. À Montpellier, c'est très précieux. La gratuité des transports, ça concourt effectivement à améliorer l'ambiance dans la ville. On n'est pas aussi angélique. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'incivilités et ça touche aussi le transport public. Donc, nous avons aussi beaucoup de missions de contrôle, de sécurisation, de tranquillité publique qui sont exercées de concert par les agents assermentés de la TAM et la nouvelle police des transports, qui a déjà une 20aine d'agents. Il va en avoir 20 supplémentaires cette année, qui travaillent aussi dans le cadre d'un continuum de sécurité publique avec les forces de la police nationale pour améliorer, lutter contre les incivilités dans le transport public, parce que c'est l'une des priorités de Michael Delafosse.
Alors, j'avais prévu une question pour vous inviter à nous dire ce qui, à vos yeux, distingue positivement, bien sûr, Montpellier des autres métropoles. Mais il est arrivé des informations en provenance de Nîmes, alors je vais vous en faire profiter. 2020, programme Jean-Paul Fournier-Franck Proust, bon, les élus de droite à la ville et à la métropole. La mesure phare sera la gratuité pour les moins de 18 ans, les plus de 65 ans et les personnes en recherche d'emploi. Où en sommes-nous 4 ans après? La gratuité seulement pour les seniors de 70 ans et plus, l'augmentation des tarifs de l'abonnement scolaire et du tarif unitaire des tickets. Et puis, pour faire bonne mesure sur ce sujet, une déclaration du président de Nîmes Métropole, Franck Proust, qui dit, tenez-vous bien, la gratuité, c'est de la démagogie participative. Alors, bon, au-delà d'une polémique presque trop facile avec des élus de la ville voisine,
c'est pas le genre,
vous qui avez le recul, qui avez suivi les dossiers, qui connaissez notamment Dunkerque et les autres villes qui se sont engagées avant, pour beaucoup, Montpellier dans cette voie, qu'est-ce qui ressort,
Je crois que trop de gens aujourd'hui voudraient résumer la question des transports à une question technique. Non, les transports, c'est une question qui est éminemment politique. Aujourd'hui, ces dernières années, face à la hausse des taux d'intérêt, face à la hausse des coûts de l'énergie, on le voit bien, la situation financière est très tendue, aussi bien au niveau national où le gouvernement nous demande des efforts pour économiser 10 milliards d'euros. Est-ce que ça va toucher les collectivités territoriales? Après, il y a deux visions sur le transport. Voilà, il y a beaucoup de territoires, je ne vais pas les citer, qui ont décidé d'augmenter le coût du transport. Bon, mais nous pensons que lorsqu'on augmente le coût du transport, en fait, ça ne participe pas à inciter à son utilisation. Vous avez des territoires qui mettent des énormes barrières pour empêcher la fraude. Ben non, nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on supprime la validation pour inciter au transport public. Voilà, il y a deux visions. Je pense que le transport public, il faut que ça soit un sujet qui soit politique pour que le gouvernement engage de vrais choix budgétaires pour améliorer la question du rail sur notre territoire national. Et ça touche aussi Montpellier, mais aussi tous ces territoires voisins. Et surtout... nous défendons des relations apaisées, mais ce que nous défendons avant tout, c'est le respect des engagements pris. Et nous, devant les Montpelliérains, lorsque nous avons fait campagne lors des dernières élections municipales, nous avons défendu la gratuité des transports. Nous sommes même allés jusqu'à mettre et à inscrire la gratuité des transports sur le bulletin de vote. Lorsque nous avons été intronisés, c'est-à-dire le 31 juillet, premier conseil de 2020. Métropole 2020, un mois plus tard, au mois d'août, hein, vous imaginez toutes les équipes en vacances et compagnie, nous faisions la première étape de la gratuité des transports le week-end. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'avec la désaffection aujourd'hui des gens pour les urnes, voilà, il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Si vous dites quelque chose pendant votre campagne électorale et que vous faites le contraire pendant votre mandat, mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce, ça délite le lien de confiance entre les électeurs, les habitants et leurs représentants. Donc nous, les engagements que nous avons pris, nous les tenons.
Eh bien, Julie Fraîche, ça sera le mot de la fin. On avait bien sûr d'autres questions et vous, probablement, d'autres réponses. Ça sera peut-être pour une autre fois. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.